bruitisme, minimalisme, abstraction sonore, de la technologie,
dark metal théâtral,
classe.
T'as vu qu'en plus,
deux ambiances musicales.
Les clitoriciennes, 88.3 sur Radio Campus. Aujourd'hui, les clitoriciennes sont de nouveau dans les locaux du 108 pour un apéro audio de Radio Campus qui met en lumière des artistes féminines, Girls in the Garage. Voilà le titre de cet événement qui nous permet une fois encore de questionner la place et le sort des femmes, cette fois-ci dans le milieu musical. Comme le révèle le hashtag MusicToo lancé par Émilie Gonneau, éditrice, manageuse d'artistes et maître de conférences à la Sorbonne, repris par un collectif national hashtag MusicToo France, ce milieu est touché, comme le reste de la société, par des violences sexistes et sexuelles qui s'expliquent par les rapports de domination qui existent entre des hommes occupant très largement des postes de pouvoir et des femmes souvent jeunes et précaires. Ces situations se passent pour les artistes, musiciennes, chanteuses, etc. et aussi pour les femmes travaillant dans les entreprises, labels, majors. Dans ce domaine, il y a des facteurs aggravants. Le rêve de travailler dans la musique, de percer, ce qui fait parfois relativiser ce qu'on est capable de subir pour y rester ou y évoluer. Et c'est également un domaine où la limite entre le personnel et le professionnel n'est pas toujours claire. Ambiance festive, alcoolisée, nocturne, situation plus à risque que dans un bureau, évidemment. C'est pourquoi il était urgent de prendre des mesures de prévention. Le Centre national de la musique conditionne ses aides à la mise en place d'un protocole de promotion de l'égalité femmes-hommes et de prévention de ces violences. Nous le verrons dans cette émission, ça bouge dans la musique, les langues se délient et affrontent même les festivals les plus connus comme le Hellfest. Et de nombreuses initiatives françaises et internationales œuvrent pour rendre accessibles et visibles les femmes dans la musique, comme l'événement d'aujourd'hui dont nous allons parler. Saisissons-nous de la culture, des micros, des platines, du son, des câbles. Tout ce que nous faisons aujourd'hui sur la scène et en coulisses permet aux filles des générations futures de se projeter dans cet univers. Soyons fiers de jouer comme des filles. Et aujourd'hui, donc, nous avons autour de la table Vivi.
Bonjour.
Céline.
Bonjour.
Donc, qui vont nous parler de la programmation de Girls in the Garage. Dans les clitoriciennes, on a Mighty Boobs.
Bonjour.
Et Bikini Kill.
Bonjour.
Et nous allons aussi recevoir un groupe qui joue aujourd'hui. Trois filles.
À trois sur la plage. Salut.
Salut.
Alors, est-ce que Vivi, tu peux nous parler de la programmation un petit peu?
Alors oui, la programmation de Girls in the Garage, c'est à la fois en effet de la musique. En fait, c'est sur deux jours. Donc le vendredi, on occupe le 108 pour proposer des DJ sets, toujours. Déjà l'année précédente, hier soir, donc c'était le feu. Il y avait Céline qui a mixé aussi avec son set plutôt électronique sous son pseudo Zelle. Et puis on a pu voir également des nouvelles DJ de Radio Campus, Cécile qui a plutôt un univers rock synth-pop, synth-wave, et puis Ilona qui elle a un univers plutôt on va dire house, garage UK, tout ça. Donc voilà, deux univers complètement différents pour ces deux nouvelles DJ de Radio Campus, sachant que l'origine de ce mini festival où notre volonté en effet de faire un événement féministe, il part du principe en fait que les femmes souvent n'osent pas en fait monter sur scène, surtout quand on vient de la radio et qu'on fait de la radio, qu'on commence même la radio. Monter sur scène tout de suite c'est une autre affaire et voilà, c'est pas facile de se faire programmer et le but était vraiment de mettre sur scène des DJ même pas confirmés, même pas, qui font leur premier set, en fait, vraiment. Voilà, alors Céline, elle n'en est pas à son premier set, loin de là. Donc ça, c'était pour la partie DJ. Et puis, pour la partie d'aujourd'hui, on a à la fois deux émissions de télé hein, qui vient de se passer avec une émission sur les fanzines et avec la web TV Zotelli. Et donc, avec le travail de Daniel aussi pour la rédac pop. Ce sont deux rédactions qui se mettent ensemble pour créer, en fait, comme ça, des émissions mensuelles au 108 dans le plateau multimédia. Du 108. Et ce jour-ci, il était consacré aux fanzines et particulièrement aux fanzines féministes par la volonté de Morgane de la Labo Média en fait de s'informer, de s'intéresser à ces fanzines. Et puis ce soir, ce sera l'occasion également en fait de voir le film que nous a programmé Céline. Je vais la laisser en parler et puis également de voir des concerts à Trois sur la plage hein, qui nous font le plaisir d'être là hein, ce soir. Merci beaucoup. Et puis de Si Naïve également. Alors, ce n'est pas un événement 100% féminin, c'est un événement féministe et c'est un événement qui laisse la place également aux minorités de genre vraiment et qui justement consacre le fait que il y a peu de femmes sur scène, il y a peu de minorités de genre représentées sur scène et surtout. Dans les lieux qui ne sont pas alternatifs et dans les lieux, on va dire, des grandes villes. Voilà. Donc, Céline va vous parler de la programmation ciné, en fait, vu qu'elle nous a choisi un film. Et je te laisse en parler.
Alors, pourquoi ce film ?
Alors, pour le film, donc, c'est une première fois aussi, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de projection de film. Il y avait cette envie... de montrer donc une réalisatrice, Kelly Reichardt, qui est une cinéaste américaine. Et elle est, je trouvais, un bon exemple de comment les femmes peuvent galérer dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, elle a son film là, qui va sortir début mai dans les salles de cinéma en France, qui a été sélectionné au Festival de Cannes l'année dernière, mais... En 1993, le film qu'on va voir ce soir, River of Grass, qui est son tout premier film, elle avait à peine 30 ans et ça a été très compliqué. Elle l'a fait avec un très petit budget et malgré son réseau, être une femme, c'était difficile pour elle, même pour se faire respecter sur le tournage. Enfin, c'est une expérience qui n'était pas très facile pour elle. Mais c'est un film qui a très bien marché, qui a été sélectionné au Festival de Sundance. Et malgré ce succès, elle a mis 12 ans pour réaliser son deuxième long métrage. Et tout ça parce que l'industrie cinématographique ne laisse pas la place aux femmes. Et donc c'est aux États-Unis, c'est aussi en France, c'est partout. Et donc je trouvais que c'était un bon exemple pour cette programmation.
Oui, moi j'avais une petite question pour Vivi. Du coup, je me demandais par rapport à d'autres festivals qui sont organisés, etc. Vous avez bien fait de l'affichage, etc. Vous avez bien montré que c'était une safe place ici au 108 pendant ce festival. Est-ce que vous avez eu des retours des gens ou du public ? Est-ce que c'est compris ça le côté un peu on est safe ici, c'est un festival féministe, etc. Ou est-ce que pour les gens qui sont venus hier et qui viendront certainement aujourd'hui, est-ce que c'est pas un festival comme un autre, ou est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça?
Alors les apéros audio ont un public hein, qui est celui du 108, on va dire, et des personnes qui aiment sortir, aiment la culture à Orléans. On est un peu dans un microcosme hein, toujours. Malgré tout, il y a des nouvelles têtes, on voit des jeunes en particulier. Hein. Moi je trouve que l'ambiance est plutôt bienveillante, plutôt à la fête, et pas du tout, il n'y a pas de propos violents, il n'y a pas de choses violentes qui se sont passées hier soir, loin de là. En fait, on est plutôt cool. Alors après, te dire en fait si les personnes présentes hier soir étaient là parce que c'était un festival engagé féministe, je ne saurais pas te dire. Après, c'est intéressant en effet d'avoir des retours du public. Par ailleurs, on est assez occupé en fait sur des tâches de production, on va dire, et on n'a pas forcément le recul nécessaire. Et ce serait intéressant en effet de questionner comme ça le public à un moment donné sur notre démarche et si elle est entendue ou pas, je ne sais pas. Alors après, c'est pas le premier événement féministe qu'on fait en effet. Et puis, non seulement nous, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs d'actrices, d'acteurs ici au 108 et en centre-ville qui font en sorte en effet qu'il y ait une prise de conscience davantage, j'espère. Voilà, on le voit en fait avec le festival écoféministe de la Labomédia, on le voit avec Offensive Féministe et les rendez-vous qui se passent ici aussi. Voilà, et je pense qu'il y a plusieurs activistes qui font en sorte en effet que ça soit un peu plus entendu, j'espère.
Et justement, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que pour la... Parce que j'imagine que c'est un événement, ce festival, qui va être pérennisé, enfin en tout cas on espère, c'est sur la bonne voie. Est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y ait cette jonction qui se fasse réellement sur les lieux, c'est-à-dire, puisque tu l'as dit à deux reprises, hein, c'est un festival féministe, est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y ait des stands associatifs aussi à un moment donné ? Est-ce que ça peut faire partie de la réflexion ?
Alors complètement, en effet, hein, nous, on a un petit peu la tête dans le guidon par moment et on se rend pas compte, en effet, que peut-être plusieurs personnes, plusieurs associations aimeraient aussi partager ce moment avec nous et on les invite, en effet, pour les prochaines éditions des apéros audio parce que les apéros audio sont là au moins une fois tous les deux mois ici au 108 Maison Bourgogne, le vendredi soir, dernier vendredi du mois. On aimerait en effet faire partager ces rendez-vous avec d'autres structures, alors là, avec grand plaisir.
D'accord. Et tu parlais de la programmation, de tout ce travail de programmation que vous avez pu faire pour trouver ou mettre en contact avec des groupes majoritairement avec des artistes féminines. Est-ce que ça, c'est de plus en plus facile ? Ou finalement, ça ne change pas, si on veut, on trouve. Voilà. Est-ce qu'en gros, c'est-à-dire, on peut trouver aujourd'hui de plus en plus d'artistes féminines ?
Alors oui, il y a des artistes féminines, il y a des artistes aussi qui ne se revendiquent pas d'un genre ou d'un autre et qu'il faut mettre en valeur également. Moi, je tiens à saluer le travail d'Alexia qui a signé la programmation. C'est pas moi qui signe la programmation de cet événement, c'est Alexia. La partie concert en particulier. Dans le travail de programmation, malheureusement, il n'y a pas que des envies qui se concrétisent. Il y a des recherches, il y a des... on envoie des perches, on cherche des choses, mais c'est pas parce qu'on les cherche qu'on les trouve. C'est pas parce qu'on les trouve que ça matche avec toutes les contingences en fait de l'événement, le budget, la distance aussi en fait qu'ont à faire les groupes pour jouer par exemple, ça rentre en compte. Hein, si déjà là on a un groupe qui vient de Strasbourg, c'est très loin et ils sont en retard. Et puis ils viennent à une seule voiture, donc nous on loue du matériel par exemple. Donc il y a toutes ces contingences là qui rentrent en jeu. De même que pour faire jouer, je ne sais pas, à partir du moment où on a un angle comme ça dans une programmation, on se rajoute des contraintes en fait. Mais c'est très bien parce que quelque part ça fait travailler, ça fait découvrir plein de groupes nouveaux par exemple. Je tiens à saluer le travail d'Alexia qui nous a trouvé en effet à Toi sur la plage qu'elle connaissait déjà. Elle repérait des groupes qu'elle voulait faire jouer depuis l'année dernière. Voilà. Travail d'un an, en gros, de programmation.
Oui, c'est vrai que... j'ai entendu qu'il y avait... C'était plus difficile, ça rejoint la visibilité en fait, des femmes, hein, plus difficile de trouver, de découvrir même des nouveaux talents, notamment dans le rock, ou dans le punk, ou dans des musiques comme ça, plutôt que dans des musiques urbaines ou plus pop. Je ne sais pas si vous avez eu cette difficulté-là.
Nous, l'événement est teinté... quand même de ce qu'Alexia a envie de montrer au public. Elle a ses exigences, d'ailleurs j'ai oublié de la citer, elle est DJ également ce soir, elle a aussi ses exigences de programmation stylistique, c'est-à-dire qu'elle...
Il y a un fil rouge, un thème
Elle aime le rock, elle aime le synth-pop, la pop, le chant en français, donc il y avait plein de choses qui rentraient aussi en jeu. Et pour le repérage, moi je trouve ça intéressant en fait qu'en effet on s'allie... les unes les autres, les uns les autres qui font ce travail de programmation ou de repérage dans le monde de la musique pour les fédérations régionales, les pôles musiques actuelles par exemple aussi comme la Fracama ici à Orléans en région centre font ce travail aussi de repérage en région de groupes qui vont en fait peut-être aider les programmatrices à trouver avec ces angles différents et aussi avec la volonté quelque part assez forte de qu'il y ait de l'égalité en fait davantage, que ce soit en fait égalité des sexes, que ce soit égalité des genres, que tout le monde soit traité au même niveau, également tout ce qui va concerner les discriminations raciales et tout ça. Donc en effet, il y a du travail qui est fait en commun en fait entre les programmateuristes des salles de spectacle, des radios et tout ça. Et après avec des personnes en fait qui sont ressources aussi en fait, qui vont par leur travail quotidien en fait aller découvrir des artistes. Moi je suis programmatrice d'une radio en fait, je reçois 200 mails par jour, dans les 200 il y a plein d'artistes féminines.
Chouette.
Donc c'est pas parce qu'il y a un manque de production, c'est parce que des fois en fait il y a un manque de volonté aussi de la part des programmateurs de déployer aussi en fait davantage un genre de politique culturelle forte dans leur salle en fait. Voilà.
Merci. On va découvrir donc le groupe A3 sur la plage. Alors, dites-nous un petit peu, présentez-vous. Vous venez de Rennes. Alors, vous êtes un duo.
Pardon. Donc oui, on s'appelle A3 sur la plage, mais on est un duo. On vient en fait de Rennes et de Montreuil. Moi, je suis okay. à Rennes et Sophie à Montreuil. Et en fait, on a commencé le groupe, ça fait combien de temps maintenant ? 4-5 ans ? 5 ans. Avec, de mon côté, moi, c'est pas mon premier groupe. Et justement, l'idée, c'était de sortir un peu des groupes mixtes. Parce que j'étais surtout chanteuse avant. Et mon idée première a été là de travailler sur... de pouvoir travailler les instruments aussi. Et de travailler avec une fille. Et en l'occurrence, c'était Sophie que j'ai rencontrée. Voilà, parce qu'en fait, dans A3 sur la plage, on a... Donc, toi, tu joues de la guitare et synthé et chant. Et moi, je suis plutôt boîte à rythme, synthé et chant aussi.
Et voilà. C'était mon premier groupe. Voilà, c'était ma première.
Ah, super.
Ouais, c'était mon premier projet.
Vous en vivez de ce projet ou
on essaie, là, c'est la première année où on essaie d'avoir l'intermittence parce qu'on a quitté donc, nos jobs. Voilà, d'abord Lisa et ensuite moi. Et du coup, on tente sans savoir si c'est forcément la bonne formule. Peut-être que... on va tester et puis peut-être qu'on préférera repartir sur une base où c'est... où il n'y a aucune contrainte, justement, financière. On verra.
Et à travers votre parcours, moi j'aurais bien voulu savoir, par rapport à la question qui nous amène aujourd'hui, la place des femmes dans la musique, si vous avez eu besoin ou si vous avez développé une stratégie particulière de survie dans un monde, dans un milieu plutôt occupé par les hommes, du coup.
Pardon. Alors, de mon côté, donc, vu que ça fait quand même un certain temps que je suis dans la musique, côté amateur, sur la partie financière, puisqu'on n'en vivait pas. Effectivement, en fait, assez tardivement, j'ai fait le constat, et justement avec toute la révolution MeToo, et même si j'en avais quand même conscience, je savais qu'on était peu de filles dans la musique, et encore une fois, moi j'étais chanteuse, hein, donc j'étais pas instrumentiste, et j'en ai discuté avec une copine, Margot, qui, elle, est batteuse, et que je voyais régulièrement, et souvent on se disait « Oh, mais quand même, il y en a de plus en plus des filles, ça bouge un peu ». Et puis on a fait très vite le constat, notamment par l'association HF Bretagne, parce que je suis en Bretagne, donc c'est basé sur toute la France, qui sort chaque année un diagnostic justement du rapport, minorité de genre plutôt homme, et on constate effectivement qu'aujourd'hui on a 15% d'artistes sur scène issues, féminines, trans, non binaires. Donc c'est toujours très peu et ça n'a pas évolué, ça augmente pas tant que ça, et malgré des choses qui ont déjà été mises en place depuis quelques années. Donc la stratégie, moi, de mon côté, ça a été surtout de me dire j'ai envie de travailler avec une autre fille. Ça a été une première stratégie. Une deuxième stratégie, ça a été de dire on en a un peu marre quand même qu'il n'y en ait pas suffisamment, et on en a un peu marre qu'elle ne soit pas assez... mise en valeur, et donc on a monté un label avec Margot qui s'appelle Cartel, C-A-R-T-E-2-L-E, et un label qui justement vient aussi, enfin, dans le chaînon, on va dire, pour les programmatrices, peut aider, puisque l'idée c'est d'avoir que des artistes féminines trans non binaires, et on a sorti une première compilation avec plein d'artistes qu'on aimait beaucoup ou qu'on a pu découvrir à l'occasion de la construction de cette compilation. Et voilà, et par ailleurs, on fait aussi des ateliers d'initiation à la musique pour les filles. Enfin, toujours, je dis toujours filles, personnes trans non binaires, hein, c'est toujours inclusif. Pour aussi, parce qu'on l'évoquait au tout début, enfin, on est à 15% de représentation féminine sur scène, mais il y a toujours la difficulté, effectivement, de passer le pas, d'aller, de constituer son réseau, parce que souvent, on est un peu toute seule dans sa chambre à se dire « j'aimerais bien faire de la musique, mais je trouve pas forcément les bonnes personnes ». Et donc, on a repris l'idée de copines qui faisaient ça à Paris, qui s'appelle donc Salut les Iquettes, avec à Rennes maintenant donc des ateliers tous les trimestres au Jardin Moderne et aussi dans d'autres villes. Et l'idée, c'est sur un week-end de réunir 5-6 participantes et de tester batterie, basse, guitare, chant, synthétiseur et de commencer à composer ensemble. Voilà. Donc, il y a une grosse stratégie, en fait, là, quand même. Mais une stratégie qui s'est construite tardivement.
Ben, moi, de mon côté, je pense que déjà, je n'ai pas vécu la même chose que toi, parce que c'était peut-être... moi, je suis arrivée... Enfin, on a commencé à faire des concerts, c'était il y a 4 ans. Donc, j'ai l'impression, voilà, peut-être parce que les choses bougent, assez préservées de... Enfin, je n'ai jamais eu de mauvaises expériences, au contraire. Mais après, je suis peut-être l'exemple de ce que Lisa met en place, dans le sens où moi, je ne croyais pas du tout pouvoir faire de la musique au début. Et c'est Lisa qui m'a vraiment dit « mais si ». Bon, j'ai commencé vraiment en me disant « mais pff, ça ne va pas du tout marcher ». Enfin, moi, j'ai organisé beaucoup de concerts et j'adore la musique, mais je ne pensais pas que je pourrais vraiment faire des concerts, me professionnaliser, etc. Et en fait, si, ça... Ça a fonctionné, on a beaucoup bossé, mais j'étais la première surprise de ce déclic et de se dire ça peut arriver, quoi.
Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Oui, parce que je suis pas sûre d'avoir entendu, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre style musical ? Qu'est-ce qu'on va entendre ce soir quand vous allez jouer ?
On le qualifie plutôt de synth pop, je crois, ou synth wave, ou synth vague.
Synth pop.
C'est quoi la synth pop ? En fait, c'est simplement. Enfin, on affectionne particulièrement les groupes des années 80, notamment. Enfin, moi, j'aime beaucoup une compilation, mais toi aussi, qui s'appelle Beep, qui était sortie sur le label Born Bad et qui réunit plein de groupes assez méconnus. Et puis, il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, de cette scène-là. Je pense à Mathématiques Modernes, à Deux, à Rousse, des groupes comme ça. Donc, on est très inspiré par cette musique-là, mais pas seulement, parce qu'on n'est pas non plus dans une logique, dans une nostalgie. On essaye de faire quand même une musique actuelle et qui nous ressemble aussi au niveau des textes. Après, je sais pas ce qu'on peut trop... C'est toujours difficile de qualifier.
Bah là, on va écouter Nuage. Peut-être que vous pouvez nous parler de ce morceau-là en particulier.
Ça, c'est un morceau où il n'y a pas de guitare. Alors moi, il y a des morceaux où je fais de la guitare et parfois non, donc on est à deux synthés. C'est vrai que déjà, on n'a pas de batterie, donc c'est vraiment, c'est le côté synth-pop. Et puis après, le côté pop, je pense qu'on avait envie de faire une musique assez facile, en fait, alors je dirais pas toujours gay, parce que c'est pas toujours gay, mais assez... simple, j'ai envie de dire, et puis voilà, on avait envie de s'exprimer, de chanter des choses qui nous concernaient, et voilà.
Et peut-être avant d'écouter, on peut leur demander leur actualité musicale, des concerts, un album.
Alors on vient de finir le mix du deuxième album, parce qu'on a déjà sorti un EP, donc un 4 titres et un premier album sur le label Gone With The Wind, et là donc on est sur le deuxième. Et puis en actualité, on a des dates de prévues. Je ne vais pas me tromper en disant le...
Genève, Saint-Brieuc, ouais, Genève, l'usine.
Ah, le 27 mai, je crois.
Oui, 27.
Peut-être on peut vous retrouver sur les
peut-être.
Réseaux sociaux.
Ouais, voilà,
oui,
c'est
tout
ça.
À fait.
Voilà, tout nous un peu, où est-ce qu'on vous retrouve sinon
Sur Instagram, Oui. A3 sur la plage et sur Facebook aussi.
Aussi, oui. Puis sinon, sur Spotify, YouTube, tout ça, on peut... Et même le Bandcamp, en fait, on peut tout écouter. Tout est en libre accès.
Très bien. Eh bien, écoutons Nuages, Nuages. Vous avez écouté donc Nuages, Nuages à 3 sur la plage. Et maintenant, on va écouter Mighty Boops.
Oui, une petite chronique parce que bah voilà, je continue ma série de parler de la place des femmes dans le milieu qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans la musique. Et j'ai commencé à être préoccupée par ce sujet quand j'ai entendu ma collègue qui programme un festival de punk dans son village me dire « Oh là là, mais je trouve personne, je trouve pas de groupe, je trouve que des groupes de mecs ». Elle a depuis 10 ans ce festival qui existe. J'ai oublié le nom du village, mais c'est que des groupes de mecs. Et du coup, je me suis dit « Mais c'est pas possible, tu vas bien en trouver quelque part ». Donc Vivi nous a bien dit qu'on pouvait quand même en trouver. A priori, c'est quand même mieux de pas être bénévole, après, si j'ai bien compris, et d'avoir des réseaux. Mais voilà. Et du coup, je me suis dit « Mais c'est incroyable ». Bien sûr, il y a quelques exceptions. On peut voir sur des vidéos YouTube où les groupes féminins se filment et puis diffusent leur musique, leur création comme ça. Mais c'est quand même un gros boulot de malade de trouver des groupes de meufs pour les programmer. Alors, on a des chanteuses avec des musiciens, ça oui, mais des groupes 100% féminins, c'est plutôt assez rare, si j'ai bien cherché. Et du coup, c'est à une occasion d'une virée dans un bar associatif dans une ville française que j'ai été attirée par une affiche qui était affichée au mur. Je regarde un peu plus près et là, je me prends dans la face la lutte féministe dans le milieu musical. Ah. C'était une affiche de l'association More Women on Stage. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. C'est une asso qui lutte pour favoriser la place des femmes et des minorités de genre dans la musique. Et l'affiche, elle était assez sobre, mais elle criait des statistiques que je connaissais pas. Pourtant, je vais dans les concerts hein, parfois. Ça m'avait encore jamais sauté aux yeux. Et du coup, au lieu de vous sortir toutes les statistiques que j'ai trouvées sur cette affiche, je vais vous proposer un petit quiz public et chers amis clitoriciennes. Donc, je voulais d'abord vous demander si vous saviez combien d'artistes femmes sont programmées dans les festivals en France, en pourcentage environ. Je vous donne trois choix quand même. Hein.
Ah, c'est sympa.
8%, 14% ou 26%.
Dans le public.
Alors, le public dit quoi?
14.
C'est
des bons élèves.
Oui,
bravo.
C'est la bonne réponse. 14% de femmes programmées dans les festivals en France quand même. Hein. C'est quand même pas beaucoup. Hein. Combien de femmes à la technique? Alors 3%, 6% ou 12%?
Le public dit 3.
Mais ils ont raison, ce public est très fort.
Oh là là là
beaucoup
là.
Plus
ouais,
beaucoup
mais alors
plus
si à chaque fois, c'est les plus petits.
Alors 3% des techniciens sont des techniciennes. Hein, voilà, seulement 3%. Combien de femmes sont récompensées en musique urbaine en France? Alors juste petit zoom parce que moi je suis assez nulle en étiquette musicale donc
tu veux dire comme la synth pop quoi.
Voilà, par exemple, je connaissais pas ça. Donc la musique urbaine, c'est l'étiquette utilisée dans l'industrie de la musique pour désigner la musique des zones urbaines périphériques et c'est un peu l'inverse de la musique traditionnelle qui est la musique de bouseux en gros. Selon l'industrie de la musique hein, voilà. Et donc, combien de femmes récompensées depuis l'existence du Grand Prix des musiques urbaines? C'est un Grand Prix SACEM. Alors, 0%, 12% ou 19% à votre avis? 0%. Alors, le public a encore raison. 0% de femmes récompensées depuis l'existence du Grand Prix des musiques urbaines. 0%. Et alors, me demandez pas depuis combien de temps, parce que là, vous vous dites, mais depuis combien de temps il existe? Eh bien, je ne sais pas.
Ah, tu vois, on l'avait même pas pensé.
T'as pas un quiz?
Ouais, j'aurais pu mieux bosser mon truc. Mais bon, combien de femmes nominées aux Grammy Awards entre 2013 et 2021? Alors, les Grammy Awards, je fais juste un petit point sur ce que c'est. C'est aux États-Unis, c'est la récompense décernée aux meilleurs artistes et aux meilleures techniciennes dans le domaine de l'industrie américaine du disque. Alors, combien de femmes nominé. Alors, combien en pourcentage hein. 8,5, 13,5 ou 26,8 nominé aux Grammy Awards entre 2013 et 2021.
Nominé, ça veut pas dire qu'elles ont reçu.
Voilà,
un
qu'elles sont récompensées.
Ouais, j'ai envie de dire que c'est un peu plus quand même qu'en France. J'ai l'impression qu'aux États-Unis.
Le rêve
alors, 8,5, ouais. 13,5 ou 26,8
26,8.
Et non, 13,5.
Ça se trouve, à l'Eurovision, c'est beaucoup mieux. En fait,
peut-être, peut-être. Et bah oui, alors enfin, on peut quand même se dire qu'elles sont bien là, les femmes, pourtant, dans les clips. Hein, l'image, c'est OK, mais le son, bon, à plus tard. C'est la Fondation des femmes qui a fait un petit rapport sur les 200 clips les plus visionnés sur YouTube en 2019 et 2020. Et elle montre qu'un tiers de ces clips présentent une hypersexualisation et une image dégradante et humiliante des femmes, que dans un quart de ces clips, les femmes qui sont à l'image sont victimes de propos violents et misogynes et sont dans des postures et situations dégradantes, ce qui finalement participe à la culture du viol, au continuum des violences. Voilà, elles sont utilisées pour exhiber leur corps et pour servir à valoriser un homme et pas pour leur talent artistique. Là, il n'y a plus personne pour la musique. Bref. Alors, une autre statistique. Alors là, j'ai fait un peu plus de recherche. Sachant que les conservatoires et les écoles nationales de musique dans les régions de France métropolitaine accueillent 56% de filles, à votre avis, combien de femmes deviennent instrumentistes? Combien? 6, 28 ou 42% sur les 56 à la base inscrites, c'est-à-dire majoritairement? Combien?
Il y en a qui disent 6. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont compris que c'était toujours le chiffre le plus bas. En fait,
non, il y a une fois où c'était pas le plus bas.
Bah, c'est qu'en fait, c'est un peu difficile de proposer en dessous, tu vois.
Bah oui, parce qu'en fait, il y en a vraiment pas, quoi.
Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je prends toujours le plus bas? Mais oui, mais parce qu'en fait, je vais pas proposer un. Et donc, en effet, c'est un petit peu moins de 6% des femmes qui deviennent instrumentistes. Alors, je me suis posé la question, pourquoi? Alors,
bah oui, elles font quoi, les autres?
Donc, j'ai lu un article sur extrait d'un bouquin publié aux presses universitaires de Rennes, dont j'ai oublié l'autrice ou l'auteur, parce que je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, qui s'appelle De la harpe au trombone, instrument de fille, instrument de garçon, et qui montre les influences liées au genre des enfants dès le choix de leur instrument. Mmh. Influence des parents, influence des enseignants. Une chose est sûre, c'est que l'influence patriarcale rôde là aussi depuis très, très, très longtemps. On peut dire donc que c'est un stéréotype structurel inconscient. En effet, plusieurs études historiques montrent que déjà, dès le Moyen-Âge, les filles, bien sûr de l'aristocratie, hein, puisque les autres n'apprenaient pas d'instruments, les filles étaient assignées à l'apprentissage d'instruments plutôt à cordes et des claviers, dont la plupart, bien sûr, sont à usage sédentaire et dont la pratique s'effectue dans la sphère privée, et difficilement dans l'espace public. On comprend pourquoi donc c'est les filles qui sont assignées à ce genre d'instruments, alors que les garçons étaient davantage assignés aux gros instruments qui font du barouf, là, vous voyez, des instruments à vent, des trombones, des percussions, à usage festif ou militaire, bien sûr. Donc les filles sont orientées vers l'usage d'instruments à faible déploiement corporel aussi, hein, le piano, la harpe, etc. Quant aux instruments à vent, ils étaient interdits aux femmes tout simplement parce que ça déformait leur visage de les faire sonner. Hein, voilà, ça c'est la raison officielle. La raison cachée, c'est que c'était des instruments qui étaient jugés dégradants pour le beau sexe, entre guillemets, parce que ce sont des instruments que l'on introduit dans la bouche et qui impliquent du jaillissement de salive. Donc je vous laisse imaginer les pater familias de l'époque. voilà, donc ça se voit parce que pour le coup, la flûte traversière, qui est quand même un instrument à vent, ça, c'est plutôt les filles, parce qu'on n'a pas besoin, juste on pose délicatement ses lèvres sur l'embouchure et voilà, donc on n'a pas besoin de l'introduire, donc voilà. Voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les instruments ont toujours un genre, que leur apprentissage est sous influence, alors certainement inconsciente, hein, des parents, des enseignants dans les écoles de musique, mais d'après plusieurs témoignages dans ce fameux article que j'ai regardé, les parents orientent le choix de leurs enfants de manière inconsciente vers des instruments qui conviennent à leur genre, surtout les filles qui, encore une fois, sont sous contrôle. Voilà, mais tout ça ne nous dit pas où sont passées ces femmes qui apprennent un instrument, des petites. Ça ne nous dit pas. Donc voilà, regardez ici, là, les artistes. Je ne sais pas si vous avez vu dans les studios de Polysonic où on enregistre de la musique, il y a des photos des instrumentistes qui sont massivement des hommes. Ou alors, si vous voulez chercher une instrumentiste sur une plateforme de rencontre de musiciennes comme Izizik ou trucs comme ça, grosse majorité d'hommes. Donc, bah voilà, on se demande, mais où êtes-vous? Où êtes-vous, les filles qui apprenez des instruments? Et où est-ce que vous jouez? Est-ce que vous pratiquez tranquillement chez vous? Vous osez pas sortir? C'est quoi? Enfin, donc, nous, on a besoin de vous voir, hein, courir librement dehors, faire vibrer les gens dans les festoches, sortez des garages, s'il vous plaît. On vous veut dans l'espace public, dans les rues. On vous veut au café. Ça commence par là, la construction, à mon avis, d'un nouvel imaginaire social, hein, que les filles comme les garçons, les femmes comme les hommes, se sentent libres de choisir un instrument qui leur plaît et d'en jouer dehors et de donner ce plaisir aux gens. Voilà. Ben, je voudrais juste finir par mettre la lumière sur les différentes initiatives qui luttent pour améliorer ça, parce que quand même, il y a des choses qui se passent. Oui. Pour la place des femmes et des minorités de genre dans la musique, je vous ai parlé de More Women on Stage. Il y a aussi le collectif Change de Disque qui lutte contre les problèmes structurels comme la différence de rémunération, la progression de carrière, etc. et qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la musique. Il y a aussi l'asso Pay Ta Note qui documente le sexisme ordinaire dans le milieu, alors qui compte la participation des femmes, hein, elles ont un espèce de compteur, voilà. Et elles recueillent surtout des témoignages et des phrases édifiantes entendues par-ci, par-là, par les musiciennes, par des techniciennes, et de la part de producteurs, de techniciens du son, etc. Voilà. Et puis il y a aussi Madame Rap, qui est le premier média dédié aux femmes et aux LGBTQIA+ dans le hip-hop. Donc c'est intéressant d'aller regarder les articles là-dessus. Voilà, parce que dans cette absence, cette absence de femmes, ou plutôt cette présence massive d'hommes dans le milieu musical, est aussi la raison pour laquelle, comme dans tout autre milieu, sont présentes de nombreuses violences sexistes et sexuelles. On en a parlé tout à l'heure. 31% des femmes qui travaillent dans l'industrie musicale disent avoir déjà été victimes de harcèlement moral ou sexuel. 31, c'est plus que les moyennes nationales. Voilà, donc ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
Merci. Merci. Alors, tu posais la question de mais où sont-elles ? Ben elles oui. se sont volatilisées. Je rappelle qu'il y a la chianteuse qui a rejoint l'équipe des clitoriciennes qui fait une excellente conférence gesticulée sur la place des femmes dans la musique. Et si ça tourne pas mal. Et donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Il y a pas mal de réponses aussi dans sa conf. Mmh. Voilà.
Et sur Internet, enfin, je rebondis aussi sur la chronique de Mighty Boobs. Hein, il y a vraiment plein d'initiatives. Change ton disque, il y a plein de ressources. Change de disque, pardon. Et WAH aussi, W-A-A-H, la plateforme ressources pour l'égalité et la diversité dans les musiques. Voilà, plein de. Mais on retrouve aussi
Il y en a plus. Hein, c'est vrai que ouais. j'ai pris quelques-uns pour pas vous assommer, mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'assos quand même dans ce milieu.
Et c'est édifiant. Bikini Kill, oui, tu nous présentes notre prochaine invitée.
Alors, je vais présenter notre invitée, c'est Nadejda. Mais avant ça, je voulais juste, parce que c'est l'actualité et on est complètement en phase avec l'actualité, et je voulais juste piquer un petit coup de gueule avant, mais en fait, vous allez voir, c'est un lien avec Nadejda, hein. c'est pas du tout contre toi. Non, parce que je sais pas si vous le savez, mais ça y est, Gégé s'est fait prendre la main dans le sac. Hein, mais si, enfin, Gérard Depardieu, vous voyez ce bon gars truculent, cette personnalité dont on raconte, tu sais, toujours comme des mythes, un peu ses réparties cinglantes, ses apparitions, bla 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 bla. Eh ben ça y est, Gégé, il s'est fait prendre la main dans le sac. Ça veut dire qu'il est mis en cause dans une récente enquête que je vous engage à lire et à découvrir de Mediapart. Il est donc mis en cause par 13 femmes qu'il accuse de violences sexuelles. Ce sont elles qui s'expriment, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas d'autres. Qui s'en étonne sérieusement de découvrir ça. On va entendre de loin en loin quelques pisse-froids réactionnaires, hein, toujours les mêmes, on ne va même pas les citer, mais qui vont nous sortir les ouin-ouin masculinistes sur l'air de « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus draguer ». Mais où est passée la séduction à la française ? Mais quand même, admettons-le, on ne peut que se réjouir de voir que enfin de telles affaires sortent du placard. C'est sûr que le vent a tourné, depuis un certain temps d'ailleurs aussi dans le monde du cinéma. Mais pourtant, Mediapart pose une question qui me semble hyper importante. De quelle complaisance a pu bénéficier cet acteur hyper reconnu pour que toutes ces violences sexistes et sexuelles dont il est l'auteur n'éclatent que maintenant et seulement maintenant? C'est-à-dire, comment un système se met en place pour créer une impunité durable dans le milieu du cinéma? Donc, il y a c'était ma petite introduction au coup de gueule, mais je pense que c'est une question aussi qu'on peut se poser de manière un petit peu transverse. Et c'est pas juste faire référence à ce con de Gégé, mais peut-être que ces questions peuvent se poser sur l'ensemble du milieu culturel. Hein, qu'en est-il ? Pas que dans les plateaux de cinéma, mais dans les théâtres, dans les salles de concert, puisqu'on est ici dans un lieu culturel. Donc, bref, dans tous les lieux de spectacle vivant. Et donc, c'est ces questions qui ont réuni le 24 mars dernier des actrices du milieu culturel orléanais lors d'une journée consacrée au VSS, pardon, violence sexiste et sexuelle, pourrait-on même dire maintenant aussi violence de genre, donc qui s'est passée ici, je crois, au 108. Et cet événement a été organisé donc par la SELF Loiret, c'est-à-dire la section locale fédérale de la CGT Spectacle. Et donc on avait envie d'échanger avec Nadejda. Bonjour Nadejda et merci d'être là. Bonjour. Pour savoir un petit peu quelles initiatives concrètes ont été sorties. Alors déjà peut-être tu peux nous redire qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée.
Qu'est-ce qui nous a motivés
déjà, qu'est-ce qui vous a motivés, oui.
Ouais, alors bon, la SELF, elle est assez récente. On est quelques-uns donc syndiqués à la CGT Spectacle dans différents métiers, des gens qui travaillent dans le cinéma, des musiciens, des comédiens, enfin des musiciens, des musiciennes, des comédiennes, des comédiens, etc. À nous être réunis pour nous coordonner, monter des actions ensemble. On était deux à avoir suivi une formation sur le sujet des violences sexistes et sexuelles dans le spectacle. C'est un gros sujet, donc. On en a parlé aux copines musiciennes à qui forcément ça, enfin voilà, ça c'était très parlant. Et il faut savoir que le syndicat des musiciens et des musiciennes a beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a beaucoup de, enfin tous nos syndicats travaillent sur le sujet, mais ils sont très actifs sur ce sujet-là en particulier dans le domaine de la musique. Et ils ont sorti en particulier une enquête sur les violences sexistes et sexuelles qu'on trouve sur le site du SNAM, qui peut être intéressante. En regard de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Donc, c'était un appel à témoignage où il y a beaucoup de musiciennes qui ont raconté des faits dont elles avaient été victimes, des violences qu'elles avaient subies. Et en fait, l'enquête nous aide à qualifier ces faits, parce que c'est pas facile en fait de qualifier les différents degrés de violence et en même temps de les analyser et de voir quels sont les leviers après syndicaux qu'on peut lever pour lutter contre elles. Donc nous, en fait, notre idée après la formation, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire localement, à la fois pour nous informer les uns les autres, pour créer un peu un groupe, une dynamique à ce sujet-là, pour qu'on puisse se retrouver, en parler, et déjà avoir ce premier degré d'information, et puis de sensibilisation pour avoir conscience, chacune d'entre nous, quand on subit des violences sexistes et sexuelles, qu'on subit individuellement, que c'est un problème systémique, c'est un problème sur lequel on peut avoir une réponse collective et non pas individuelle, et essayer de dépasser le stade de la culpabilisation, de la honte qui empêche de parler. Bon, la prise de parole, elle n'est pas évidente. On l'a vu d'ailleurs lors de cette réunion, parce que finalement, je voyais les copines qui échangeaient entre elles pendant 2-3 heures quand on préparait, qui se racontaient des histoires et des anecdotes. Ça, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand on s'est retrouvés en groupe pour s'exprimer publiquement, la parole, elle devient beaucoup plus pudique et c'est plus facile de s'appuyer sur des enquêtes en fait, qui ont déjà été menées pour rapporter des propos qui sont quand même violents, puisqu'on parle de violences sexistes et sexuelles, et puis aussi des actes et des délits, quoi. Donc, en gros, c'est ça les objectifs. Et de faire comprendre aussi qu'il y avait des leviers qui existaient. Du coup, je vais peut-être juste pour conclure sur ce sujet-là, réagir à ce que tu disais pour Depardieu.
Oui.
Parce que l'affaire Depardieu, elle a été soulevée donc par Mediapart qui a fait une enquête. Donc ça, c'est une des voies possibles pour lever les questions des violences sexistes et sexuelles dans nos milieux du spectacle, parce que forcément, ça peut être très vite médiatique et ça peut être un levier d'action. Mais il y a une autre affaire en ce moment dont on parle aussi un petit peu, c'est l'affaire Corsini. Et je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le Catherine Corsini qui c'est assez emblématique parce qu'elle fait quand même partie du collectif 50-50 pour l'égalité professionnelle. Donc c'est intéressant quand même de voir que parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, il y a des pratiques en fait qui sont assez contradictoires avec de ce qu'affichent publiquement certaines personnes, enfin des personnalités du spectacle, et Catherine Corsini en est une. Donc c'est une cinéaste qui a été épinglée par un syndicat, justement, enfin mon syndicat en l'occurrence, sur une question de violence sexiste et sexuelle, mais c'est resté un peu à l'abri du regard des médias, parce que c'était une mineure qui était victime de violence. Pour deux raisons, il y avait une scène sexuellement explicite qui avait tourné avec elle sans l'autorisation préalable en fait de, je sais plus comment ça s'appelle, la commission qui donne les autorisations pour les enfants pour les tournages. Donc il y avait cette scène qui avait été tournée en dehors du cadre réglementaire. Et puis il y avait des attouchements de la part d'un cascadeur et c'était une jeune fille de 15 ans qui avait été victime de ces attouchements. Il se trouve que la cinéaste en question, la jeune fille avait n'avait pas osé en parler à la réalisatrice. Elle en avait parlé à une comédienne plus âgée qui avait 25 ans, qui était allée en parler à la réalisatrice. Et la réalisatrice, comme la productrice, ont couvert les faits, ont protégé le cascadeur en question. Et elle, en fait, elle avait lancé des bouteilles d'eau à la tête des subalternes, n'est-ce pas, qui venaient, je sais plus, c'était des techniciens, enfin, qui n'agissait pas, qui osait en fait aller contre la parole de la réalisatrice. En fait, c'est ce que ça met en relief, c'est que les violences sexistes et sexuelles, elles sont souvent liées à des rapports de domination hiérarchique, à un mal-être, des relations de domination en général, et une forme de harcèlement qui peut être du harcèlement moral et pas simplement du harcèlement sexiste et sexuel. Donc souvent, elles prennent essor sur un terreau qui est en quelque sorte favorable à ça. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de poser un regard syndical là-dessus, parce que la lutte syndicale, c'est aussi c'est travailler à des meilleures conditions de travail et au bien-être au travail. Donc ça va dans ce sens-là.
D'accord. Voilà. Merci pour ton éclairage. Et c'est vrai que c'était important de le rappeler. Alors, du coup, il y a eu cette journée du 24 mars. Tu as un petit peu expliqué le déroulement. Et ça a donné des suites localement. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il?
Oui, alors, on n'était pas très nombreux et nombreuses à se retrouver. On va se l'avouer. Après, c'était une première fois. Moi, je pense qu'on a eu envie, à la suite de cette réunion, que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle ne soit pas ponctuelle ou simplement l'occasion d'une action au moment du 25 novembre de chaque année, mais que ça soit le début d'un petit groupe qui puisse travailler ensemble, qu'on soit syndiqué ou non syndiqué. On est invité à rejoindre ce groupe qui va se réunir tous les trimestres. Et qui va se proposer un programme d'action, de sensibilisation, etc. Nous, on s'était mis un objectif qui était très petit, mais qui est important à atteindre quand même. C'est la question de l'affichage. Parce qu'en fait, l'affichage... en deux mots, je rappelle que les violences sexistes et sexuelles sont de la responsabilité de l'employeur. Quand on subit une violence sexiste et sexuelle sur son lieu de travail, pendant un temps de travail, c'est comparable à un accident... Enfin, c'est assimilé à un accident du travail. Donc c'est la responsabilité de l'employeur, en fait, de prévenir, protéger et sanctionner les salariés. Donc dans ces actions de prévention, qui sont tout aussi importantes que les actions de sanctions, il y a la question de l'affichage, parce que si on se sent menacé sur son lieu de travail par une personne, c'est important de pouvoir savoir à qui en parler. De même que si on a été victime d'une violence, en fait, c'est important qu'il puisse y avoir un interlocuteur pour cette parole. Donc, ce qui est particulier au milieu du spectacle, c'est qu'il y a eu en 2020 un accord qui a été signé. Enfin, ça s'appelle un plan d'action entre organisations salariées et employeurs, qui en fait a mis en place une série de mesures, et parmi lesquelles il y a une cellule d'écoute psychologique et juridique à audience. Et donc, le numéro, par exemple, afficher ce numéro sur chacun de nos lieux de travail, mais aussi les espaces mutualisés, par exemple, ou 108, des choses comme ça. Ça peut paraître assez anodin, mais c'est une obligation de l'employeur. Le rappeler à l'employeur, c'est important. Et c'est aussi important qu'on le sache, parce que s'il existe des outils qu'on ne s'en saisit pas, nous, en tant que femmes, souvent, c'est... Enfin, voilà, je dis femmes pour dire toutes les personnes qui peuvent être victimes de ces violences-là. Voilà. Je crois que c'est...
D'accord. Donc, oui, on rappelle donc que il va y avoir des réunions ouvertes à tous les professionnels de la culture, d'accord, sur la question des VSS. Une réunion trimestrielle, qu'on soit syndiqué ou non. Donc, ça se passe à Orléans. La prochaine, tu as une date à nous donner ou pas?
Ça sera en juin. On n'a pas fixé la date, mais ça sera en juin et ça se passera ici au 109 du 108.
Au 109 du 108. Et alors, on a l'info comment?
Oui, comment on a l'info? C'est-à-dire que nous, on communique sur les listes mail de réseau du milieu culturel, en particulier du CUIP 45, et puis les Facebook.
Du 108, je pense, on trouvera
Facebook
l'info.
Le Facebook du 108, on trouvera aussi.
D'accord. Ouais. Donc un collectif qui est amené, on l'espère, à grossir, à se diversifier.
En fait, très précisément, on n'a pas eu la volonté de créer un collectif, puisqu'on est déjà organisé en syndicat, mais c'est juste que la démarche, là, c'est d'associer le plus grand nombre de personnes aux réunions qui soient ouvertes, pour que chacun puisse se saisir de la question.
Merci beaucoup, Nadejda.
Et on va écouter un deuxième morceau de musique. Donc c'est Si Naïve, Cela ne fait que commencer, un trio de Strasbourg qu'on écoutera en plus ce soir.
Cela ne fait que commencer.
se retrouve. Alors on se retrouve, on s'est dit que ce serait bien de se dire des concerts voilà, où on pourrait voir des artistes féminines. Donc, alors déjà, oui, un petit bout pour le Printemps de Bourges qui sélectionne tout un tas d'artistes dans les Inouïs. En fait, c'est des artistes émergents, voilà, des jeunes artistes qui n'ont pas été beaucoup vus. Donc ils sélectionnent 34 artistes. Et avec une belle parité, enfin vraiment, les acteurs, les programmateurs, oratrices des régions ont fait un beau travail de parité. Et les trois lauréats, les trois gagnants, c'est des hommes.
Oh, voilà. Bizarrement.
Bon. Bouh. Donc sinon, pour voir justement des artistes féminines, alors on peut aller à l'Astrolabe. Il y aura November Ultra le 5 mai. Donc c'est très, c'est assez
très
aérien.
Bien.
Alors moi, je suis assez nulle aussi hein, pour dire les couleurs musicales, etc., et donner des adjectifs.
C'est mais bien, voilà, c'est bien. En fait, c'est ça. C'est bien.
C'est très très bien. Sinon, dans les festivals, alors je trouve quand même qu'en regardant quelques festivals de cet été, c'est quand même beaucoup les mêmes artistes qui passent un peu partout et beaucoup d'artistes quand même assez mainstream aussi. Hein, voilà. Alors peut-être que je ne connais pas les festivals, voilà, confidentiels puisqu'ils sont confidentiels. Mais on peut citer donc Solidez quand même du 23 au 25 juin, donc ça c'est sur Paris. Hein. Alors il y a Kalika que je ne connaissais pas, artiste complètement déjantée et notamment elle a une chanson qui fait du bien contre le slut shaming qui s'appelle Chaudas, que je vous conseille à écouter. On a Aneta qui est une DJette qui embrase le dance floor qui est assez exceptionnelle et Irène Drezel, première femme à recevoir cette année le César de la meilleure musique originale pour le film À plein temps. Et elle habite dans notre région, puisqu'elle habite près de Dreux. Voilà, et puis bon, bah, il y a d'autres articles.
On salue les amis de Dreux quand même.
Qui passent beaucoup voilà, sur les radios, AD, Juliette Armanet, etc. Enfin, voilà. Et sinon, donc une qui n'a pas gagné justement au Inouï à Bourges, Théa, artiste émo-core engagée sur les questions queer et féministes, que vous pouvez retrouver aussi sur Paris le 13 mai dans un festival qui s'appelle Ambiose Release Party. Et bien sûr, ben, voilà, si vous venez aujourd'hui au 108, vous pouvez voir des groupes formidables. Donc hier, puisque vous l'écoutez dimanche, voilà. Mais vous
et
viendrez l'année
passé,
prochaine bon. dans ce festival Girls in the Garage. Voilà, pour voir plein d'artistes féminines et aussi des artistes féministes. On remercie beaucoup donc Radio Campus et le 108 de nous avoir encore une fois accueillis
et Daniel,
aujourd'hui. Merci Dan à la technique.
Merci, Dan.
Vous retrouverez les clitoriciennes le dimanche 14 mai.
On va parler vélo.
Tout à fait.
Vélo et vélo et meuf, quoi.
Ouais. Eh bien, au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.